Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Immo, bienvenue sur Radio Immo. Et oui, ça pique un peu, c'est vendredi 19 janvier. Bonjour Grégoire Darico.
Bonjour Bérénice de Villefleurio.
Ça va ce matin? Ça n'a pas été
bien.
Trop dur le réveil?
Non, moi je vous sais, j'ai des jeunes enfants, je suis réveillée depuis longtemps.
Ah, déjà. C'est vrai. Bon, on va être là pendant 45 minutes, hein, 45 minutes sur, pendant lesquelles on va revenir sur des informations sur l'immobilier. Je rappelle que cette émission, c'est pour vous, hein, si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si vous envisagez de devenir propriétaire, voilà, c'est le Mac de l'Immo, c'est pour vous. Et puis, en deuxième partie d'émission, dans 45 minutes, à 8h45, nous recevrons Paul Véraud, le cofondateur de LogiAdapt, et on discutera avec lui de son parcours, de LogiAdapt, vous allez voir ce que c'est, et puis aussi de MaPrimeAdapt, qui est entré en vigueur là au mois de janvier. Vous êtes en forme, Grégoire?
Tout à fait, Bérénice, je suis fin prêt.
Très bien, parce qu'on va parler de nombreux sujets. On va parler du DPE, on va parler d'une ville française qui offre une prime de 10 000 euros à ses nouveaux arrivants. On va parler aussi des clés de la ville, Grégoire, puisque vous y étiez à Limoges, c'est ça, cette semaine?
Tout à fait, très intéressant.
Et voilà, et on va parler aussi d'une start-up IMO comme chaque vendredi. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
Le Mac de l'IMO sur Radio IMO.
Et tout de suite, nous retrouvons Vincent Favreau pour la revue de presse. Bonjour Vincent.
Bonjour. Dans la revue de presse immobilière du Net, cette semaine, on commence avec nos amis du Figaro. Ils s'interrogent sur le peu de considération pour le logement d'Emmanuel Macron, le président de la République, et de son premier ministre Gabriel Attal. Vous le savez, le logement ne faisait pas partie de la liste des 15 premiers noms dévoilés pour constituer le gouvernement Attal 1. Dans l'article, le Figaro rappelle les réactions de nombreux acteurs du secteur. Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier, réclame que le gouvernement fasse du logement une priorité. Encore une fois, il marque son mépris face à la crise que traverse ce secteur, la crise que traversent les Français. C'est ce que dénonce Damien Errant, président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. C'est l'incompréhension pour Guillaume Martineau, président d'Orpi, premier réseau immobilier de France quand même. Le gouvernement montre une nouvelle fois que le logement sera relayé au second plan, pire encore, qu'il sera oublié. Mais alors pourquoi le président oublie, élude, manque de considération pour un sujet qui concerne les Français, à hauteur de 20% de leurs revenus selon l'INSEE, il faut le rappeler. Dans le Figaro, on veut peut-être y voir le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a aucun bien immobilier. L'Élysée et la lanterne appartenant à l'État français, bien sûr, et la maison du Touquet et celle de sa femme, Brigitte. Côté Attal, le nouveau très jeune Premier ministre, 34 ans, ne posséderait selon le journal Le Télégramme que 11% d'une SCI, soit environ 130 000 euros. Pas de quoi faire un ministère, peut-être. Et si les seniors étaient les premiers clients de l'immobilier? C'est dans ce sens que nous lirons l'article maintenant de BFM TV qui revient sur ce phénomène important. La part des plus de 60 ans dans les acheteurs de biens immobiliers ne cesse de progresser. À l'échelle nationale, la part des plus de 60 ans dans le total des acheteurs n'était que de 3% en 2010, nous dit BFM. Il représente 20% du marché en 2023. De l'autre côté, on voit très clairement les jeunes peser de moins en moins. Les 30-40 ans représentent 24% des acheteurs. Ils en représentaient 40% en 2010. Un phénomène qui déséquilibre complètement le marché immobilier, car les anciens ont beaucoup moins besoin de recourir à l'emprunt, en arrivant souvent avec un apport plus confortable qu'un jeune couple, par exemple. Ils peuvent donc se permettre de soutenir un marché, même quand l'accès au crédit est plus compliqué, comme en ce moment. C'est le cas à Nice, où les prix ont encore pris 5,5% en 2023. Là, ce ne sont pas 20% comme au niveau national, mais bien près de 25% des acheteurs qui ont plus de 60 ans. Enfin, on termine cette revue de presse avec le bilan immobilier 2023 de Bien Ici. Le site de recherche de biens immobiliers délivre en graphique et dans cet article de La Dépêche un bilan en chiffres de l'année écoulée. Paris, ville la plus recherchée, devant Toulouse et Nice. 4 918 euros au mètre carré en moyenne pour un appartement en France, un prix moyen qui grimpe à 11 511 euros à Paris, 5 444 euros en Île-de-France. Des prix qui baissent pour ces appartements, qui montent de quelques points pour les maisons individuelles, et des temps de diffusion des annonces qui ne font qu'augmenter. Plus 6 jours en Corse, plus 8 en Île-de-France, jusqu'à plus 20 jours en Nouvelle-Aquitaine. Une météo de l'immobilier très précise qui retrace bien l'année passée, c'est à lire dans la presse cette semaine. Vous retrouvez tous les liens sur le site et l'appli Radio Immo, direction le podcast de la revue de presse Radio Immo.
Le Mac de l'Immo, sur Radio Imo.
De retour dans le Mac de l'Imo, on est ensemble jusqu'à 9h30.
Alors Bérénice, faire des travaux de rénovation pour améliorer la note de son DPE, donc diagnostic de performance énergétique de son logement, ne permet pas de baisser tant que ça la consommation d'énergie.
Eh bien non, c'est le résultat d'une étude qui va faire parler d'elle, hein, qui commence déjà à faire parler d'elle, qui vient d'être publiée par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le Conseil d'Analyse Économique. Donc c'est une grosse étude qui nous dit très clairement que si vous avez un logement qui est mal noté par le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, et que vous faites des travaux de rénovation, innovation énergétique qui vous permettent d'avoir une meilleure note, si par exemple vous passez d'un logement F à un logement C, eh bien votre logement aura une meilleure note, c'est-à-dire qu'il sera plus performant énergétiquement, mais vous ne ferez pas forcément plus d'économies d'énergie. En tout cas, elles seront beaucoup plus faibles que prévu. La baisse de votre consommation d'énergie sera plus faible qu'escompté malgré les travaux conseillés par le DPE. Donc voilà, c'est ce que nous révèle cette étude.
Alors, on s'attendait pas vraiment à ça, mais comment est-ce qu'elle a été réalisée, cette étude ?
Eh bien, grâce aux données bancaires anonymes sur la consommation énergétique des logements de près de 180 000 ménages. C'est donc une étude très bien ficelée, hein. Je vous l'ai dit, en plus, elle a été menée par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse économique, donc des acteurs sérieux. L'étude explique bien que même quand on a un bon DPE, un logement donc performant, on n'est pas forcément un bon acteur de la sobriété de son logement. Ça veut dire que l'on consomme encore trop d'énergie. Il y a donc un travail à faire au niveau de ses habitudes de consommation.
Merci Bérénice.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Et on est ensemble jusqu'à 8h45. À 8h45, on recevra Paul Véro jusqu'à 9h30.
Et Bérénice, cette semaine a eu lieu la conférence de presse de la FFB, donc la Fédération Française du Bâtiment, Grand Paris, Île-de-France, qui a dressé le bilan de l'année 2023 et a exposé les perspectives pour 2024. La situation se détériore, la FFB envisage une récession pour le secteur. On écoute votre interview d'Edouard Durier, vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand Paris, Île-de-France.
Edouard Durier, bonjour, vous êtes le vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand Paris, Île-de-France. Alors hier s'est tenue la conférence de presse, hein, pour faire le point, le bilan sur 2023, le dernier trimestre et puis les perspectives 2024. Alors on a constaté, c'est ce que vous nous avez dit, hein, bon, même si on le sait, la situation ne s'améliore pas du tout pour le bâtiment francilien.
Oui, bonjour. Effectivement, on constate ce qu'on annonçait déjà depuis plusieurs mois et qu'on constate de plus en plus, c'est que le marché est en train toujours de baisser. L'entretien-rénovation sur l'Île-de-France est stable, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et surtout, le neuf et le non-résidentiel sont en baisse importante. Donc, ça nous inquiète. Ça fait plus que nous inquiéter. Ça nous met un petit peu en colère parce qu'on a l'impression que tout ça n'est pas bien géré au niveau de nos politiques et de la politique du logement sur l'Île-de-France.
Alors là, vous avez évoqué les trois secteurs, hein, les trois secteurs que vous avez détaillés hier en conférence de presse. Donc le logement neuf et le non résidentiel, vous l'avez dit, qui sont en chute libre. Et c'est vrai que l'entretien rénovation, bah, vous misiez un peu dessus, hein, c'est ça. Et finalement, c'est pas si bien que ça.
Bah, c'est-à-dire que c'est un secteur qui reste stable depuis un certain temps. Ouais. C'est à peu près la moitié, hein, des opérations en Île-de-France. Mais à partir du moment où il y a moins d'opérations qui se mettent en route dans le neuf, bah forcément, certaines entreprises, c'est ce que j'avais dit déjà la dernière fois, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, certaines entreprises du neuf ayant moins de volume sont en train d'arriver sur nos marchés et la concurrence est rude, les marges sont totalement disparaissent parce que il y a une réalité économique qui fait que tout le monde a faim et a besoin de rentrer un peu de volume pour 2024.
Alors pour la FFB Grand Paris Île-de-France, en tout cas l'année 2024 laisse présager une récession pour le secteur.
Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, même si on voit encore beaucoup de chantiers en route, sont des chantiers qui sont en train de se terminer, qui étaient des commandes même avant Covid parfois, que les maîtres d'ouvrage avaient eu du mal à lancer par manque de moyens, parce que crise des matériaux, enfin augmentation des matériaux, augmentation des délais, etc. Donc tout ça avait beaucoup traîné. Ces chantiers-là sont en train de se terminer, ouais. Et nous n'avons pas d'autorisation de mise en chantier pour l'année 2024 ou 2025 pour certaines grosses entreprises. Donc c'est pour ça qu'on s'inquiète et on sait qu'il va y avoir encore un peu moins de volume et c'est pour ça qu'on se bat tous peut-être bêtement parfois, mais sur certains marchés, ça devient très compliqué. On sait qu'on va perdre, on va être obligé malheureusement de licencier certains de nos personnels, alors qu'on essayait de les garder le plus possible en se disant ça peut repartir et on va en avoir besoin. Parce qu'on sait que dans quelques années, quand ça repartira, ou dans quelques mois, on aura besoin de ces personnels-là. Oui. Mais aujourd'hui, certaines entreprises qui n'ont plus de trésorerie vont être obligées de licencier. Hein.
Vous avez parlé de votre cas personnel justement au niveau du carnet de commandes par exemple qui diminue.
Absolument, moi j'ai l'habitude d'avoir un carnet de commandes plein à 4-5 mois. C'était un petit peu moins là, c'est depuis le Covid, ça l'est encore moins. Moi j'ai 2 mois et demi devant moi. Alors sont 2 mois et demi qui se remplissent au fur et à mesure, mais c'est quand même 2 mois et demi, ce qui est très anxiogène pour un chef d'entreprise de ma taille. Après grosses entreprises, même chose, elles ont d'habitude vraiment plusieurs mois, voire un an et demi devant elles. Là, elles n'ont pas. Et les petits, c'est la même chose. Enfin, tout le monde est très angoissé, très très inquiet. Je veux pas toujours être trop pessimiste, mais là, on sent bien que l'ambiance n'est pas du tout à l'euphorie. Et puis, on a encore une fois, on a l'impression que les politiques, je sais qu'ils ont beaucoup de sujets à traiter, mais on a l'impression qu'ils sont pas du tout sur le sujet du logement. On sait qu'on a une crise du logement. Moi, je suis terriblement choqué quand j'entends encore aujourd'hui que des étudiants ne trouvent pas de logement, que
12% renoncent à leurs études faute de logement.
Même des classes moyennes. Mais bien sûr, et même des classes moyennes aujourd'hui ne trouvent pas de logement dans Paris ou en petite couronne. On hallucine complètement, quoi.
Ouais. Alors justement, quelles sont les propositions de la FFB pour essayer de trouver des solutions, en tout cas, au gouvernement?
Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait de nouveau un prolongement du Pinel. Alors j'ai lu que le 2 Normandie était maintenu, et ça c'est très bien. Oui. La bonne nouvelle, c'est aussi que le PGE a été des PGE a été repoussé de 3 ans. Oui. Donc ça c'est aussi une bonne chose. On espère que ça va permettre à certains de qui n'ont plus de trésorerie de tenir malgré tout, en attendant que tout ça revienne. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait l'engagement sur la loi 2011 du nombre de logements à construire en Ile-de-France, à construire, à rénover aussi, parce que la rénovation, même si elle est stable, il faut qu'on continue à rénover. On le voit bien, il fait froid en ce moment, il y a des passoires thermiques qui sont compliquées à rénover parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les modalités d'aide, etc., soient simplifiées. Je l'ai dit hier à la conférence de presse, parce que c'est très compliqué. Même nous, professionnels, parfois, on se demande qui il faut appeler pour rénover notre propre logement. Donc, tout ça, il faut simplifier tout ça. Il faut que les choses soient très simples pour que les gens puissent rénover partiellement ou complètement leur logement, et que les bailleurs comprennent aussi comment ça peut se passer, et un retour sur investissement correct. Enfin, voilà, il faut que toute la filière se mette en marche, y compris les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup, Edouard Durier. Le message est passé en tout cas.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas? Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé? Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle. Le Mac de l'Immo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo, tous ensemble. Bérénice, vous allez nous parler d'une bonne pratique.
Oui, parce que Grégoire, en cette période de début d'année, c'est toujours bien de se rappeler les bonnes habitudes à prendre. Et pas que en termes de sport ou d'alimentation.
Tout à fait.
Et il y en a une qui est absolument nécessaire, c'est aérer. Alors peut-être que certains d'entre vous le font systématiquement tous les jours chez eux. Vous le faites, Grégoire ?
J'essaye, Bérénice,
voilà.
Le matin.
Eh bien, il faut le faire chaque matin. Il faut prendre cette habitude chaque jour aérer, même quand il fait très froid, comme en ce moment. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 80% de notre temps dans des espaces clos, donc dans notre logement, à notre travail, à l'école, dans les magasins, dans un espace de loisirs, à la salle de sport par exemple, comme vous, Grégoire, dans nos voitures, dans les transports en commun, à la crèche pour les plus petits. Bref, la plupart du temps, nous sommes en enfermés et il a été constaté que ces espaces peuvent nous exposer à de nombreux polluants. Alors que ce soit des polluants chimiques ou biologiques, il y en a plein de différentes sources. Le chauffage par exemple, les produits ménagers qu'on utilise, le tabac, les allergènes.
Et justement à ce sujet, vous avez quelques chiffres concernant les espaces de travail et les bureaux par exemple.
Oui, alors ce sont les chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui a été créé à l'initiative du ministère du Logement. 5% des bâtiments de bureaux sont multipollués et 26% disposent d'une concentration trop élevée en composés organiques volatiles, cancérigènes et toxiques. Ces seuils sont bien supérieurs aux seuils prescrits par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc voilà, pensez à bien aérer vos bureaux aussi.
On commence la journée, on ouvre les fenêtres.
Tout à fait.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Nous sommes tous ensemble dans le Mac de l'Imo, 8h45. Paul Véro, cofondateur de LogiAdapt, sera avec nous. Et Bérénice, cette semaine, vous avez assisté à la conférence de presse de rentrée de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, animée par son président Loïc Quentin. Vous avez échangé avec lui juste après. Vous faites d'ailleurs le point sur la politique du logement, les nombres de propriétaires en baisse en France, des agences immobilières qui ferment. Bref, on vous écoute.
Bonjour Loïc Quentin, vous êtes le président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce mois de janvier 2024 ?
Bonjour Bérénice. Alors tout d'abord, en ce début d'année, première inquiétude, c'est qu'on a hâte quand même d'avoir un ministre du Logement désigné. Sera-t-il l'ancien ministre ou un nouveau ministre ? Enfin, s'il y avait un nouveau ministre, c'est le sixième ministre du Logement depuis cette année de présidence d'Emmanuel Macron. C'est quand même inquiétant de montrer que la politique du logement qui devrait bénéficier d'une règle de stabilité absolue compte tenu des enjeux aujourd'hui, finalement est à l'écart et oscille entre positionnements différents et sans véritable stratégie et sans ligne de conduite. Et d'ailleurs, s'il y avait une véritable vision stratégique de la politique du logement, elle incombe à qui ? Au chef de l'État. Et tant qu'il n'y aura pas de vision ou de mobilisation pour le logement du chef de l'État, il n'y aura pas de ministre du logement efficace. Voilà, on se résume à des mesurettes. Et je l'ai dit souvent, la politique du logement, c'est pas uniquement une ligne budgétaire d'une loi de finances ou distribuer, comme on vient de le voir aujourd'hui, 120 millions pour les sans-abri. Les sans-abri, c'est un phénomène récurrent. Et à chaque fois, on refait la même chose. C'est pas ça conduire une politique du logement, c'est atteindre des objectifs, s'assigner des objectifs et une vraie vision d'avenir et une prospective au moins à 20 ans, ce que doit être la politique du logement en France et ce qui incombe à chacun.
Donc une politique plus durable, ça on l'a bien compris. Vous parlez justement de la politique menée par le gouvernement, par le chef de l'État Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, on s'éloigne de plus en plus de cette France de propriétaires ? Est-ce que c'est vrai que là, ce matin, il y a eu la conférence de presse et l'un des souhaits de la FNAIM, c'est de permettre aux Français de renouer avec l'accession à la propriété, mais est-ce que c'est possible dans ce contexte ? On a l'impression que voilà, le chef de l'État n'est pas favorable à cette France de propriétaires.
C'est pas que c'est possible, c'est louable et c'est, je crois que ça doit faire partie des objectifs parce que aujourd'hui, et compte tenu des incertitudes qui pèsent sur notamment la retraite des Français, au moment où on aura dans tous les cas besoin d'un toit. Et ne pas avoir de toit à soi au moment où on est à la retraite, ça sera effectivement un vrai défi de demain. Donc oui, il faut restaurer une vraie France de propriétaire. D'ailleurs, si on prend beaucoup de pays d'Europe, certains pays d'Europe affichent un taux de propriété de 70-75%, quand nous avons un taux de propriétaire qui est à la baisse, et je dirais une pépérisation de l'accession à la propriété. Il est encore élevé parce qu'on a beaucoup de Français propriétaires qui ont terminé avec leur crédit, qui viennent encore des générations d'il y a 20 ou 25 ans. Mais aujourd'hui, on voit que les primo-accédants, les premières acquisitions sont en baisse régulière. Et comme il n'y a plus de politique d'accompagnement de la primo-accession, oui, il y a paupérisation, oui, il y a baisse du nombre de propriétaires, et il faut enrayer ce dispositif parce que je crois que ça fait partie aussi d'une ambition de tout État, de toute nation, de mieux loger sa population et surtout leur permettre d'accéder à la propriété. Ce n'est pas un vilain mot, la propriété. Au contraire, c'est une finalité.
Aujourd'hui, vous avez encore parlé de cette fameuse proposition hein, que vous portez depuis plus d'un an, depuis votre campagne, celle de la portabilité des prêts. C'est vrai que c'est une proposition très intéressante. Justement, ça avait intéressé le ministre du Logement ou ex-ministre du Logement, on ne sait pas encore, Patrice Vergriete. Pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce sujet d'ailleurs ?
Vous savez, parce que je crois qu'un ministre est totalement dépendant, notamment à la fois de la politique conduite par Bercy. Et à la fois, je dirais, des orientations de son ministre. Mais aussi, un ministre doit avoir le courage politique. On lui demande de l'action. Et je regrette que Patrice Vergriete, qui a été à un moment séduit par la proposition, n'ait pas suivi. Et il a simplement dit « oui, on est d'accord pour les contrats à venir ». C'est pas ça. L'État pouvait très bien, effectivement, trouver au moins un moratoire avec les banques. Je crois que l'État ne se rappelle pas de ce qu'il a fait pour les banques à la crise des subprimes en 2009, lorsqu'il est venu au secours d'elles, qui affichaient des pertes abyssales avec la crise des subprimes, et l'État leur a permis de cautionner des prêts, l'État les a refinancés. On demande uniquement une réciproque, je dirais une solidarité républicaine des banques, à l'égard notamment des emprunteurs. Il faut quand même se rappeler que, et je le disais tout à l'heure dans la conférence de presse, c'est que très souvent, les crises immobilières sont la conséquence de crises financières, mais les crises financières n'ont jamais été la conséquence de crises immobilières.
Alors, on parle de crise, justement, vous avez parlé du nombre d'agences qui fermaient. Un petit mot à ce sujet, justement.
Oui, c'est très inquiétant. Et là, on a fait une projection où, dans tous les cas, nous ne serons pas, nous serons, je dirais, au même rendez-vous qu'en 2009, après la crise des subprimes, où on avait 1400 fermetures, redressements, liquidations d'agences. Et on ne peut pas être en dessous de ce chiffre parce que cette crise est tout aussi violente que celle de 2009.
Et pour finir, un petit mot sur la rénovation énergétique. Avez-vous vu, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'étude qui vient de sortir, qui a été réalisée par le Crédit Mutuel et le Conseil d'analyse économique sur justement les travaux de rénovation énergétique pour gagner une lettre dans le fameux DPE qui ne permettent pas d'avoir les économies d'énergie escomptées. Voilà, ça a été réalisé sur 180 000 ménages. Un petit mot justement sur ce sujet. Un logement performant, plus performant, ne rime pas forcément avec économie d'énergie.
Oui, c'est un phénomène qui a déjà été constaté. Hein. Je crois qu'il y a eu plusieurs études américaines, études anglaises aussi, qui ont démontré cela parce qu'il y a le réflexe permanent, notamment parce qu'on consomme moins, et bien effectivement on chauffe plus. Quoi. Oui. Donc c'est un réflexe normal, un réflexe humain. Donc ça fait partie plutôt de la conscience collective que de la mise en œuvre de dispositions réglementaires, peut-être la rénovation énergétique aussi.
Donc il faut de la pédagogie en plus.
Et de la pédagogie, de la prise de conscience et du temps. Et voilà, et la rénovation énergétique, c'est pas l'immédiateté et de la demande d'exécution rapide de l'État, c'est de la pédagogie et de la projection sur le long terme.
Pour finir, un petit mot pour les professionnels qui nous écoutent.
Alors les professionnels qui m'écoutent, je voudrais leur dire que de toute façon, même si on travaille une crise, on sait toujours relever de ces crises. Et ce que l'on constate, c'est que les bons professionnels s'en sortent très bien. Mais qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut s'ancrer à la fois de plus de travail, être acharné, plus se former, mieux se former, être des vrais conseils, des vrais accompagnateurs, des vrais régulateurs de marché. Et là, nos clients nous attendent. Quand on affiche la compétence, le bon conseil, on réussit, il n'y a aucun problème. Et je crois, quelles que soient les crises, l'immobilier a toujours résisté à toutes les crises économiques et les professionnels s'en sont toujours sortis. C'est ma quatrième crise et je crois que de toute façon cette crise, je l'affronte et je l'aborde comme les autres.
Merci beaucoup Loïc Quentin.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin. N'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Si tu ne viens pas, je t'attendrai.
c'était Slimane, mon amour, la chanson préférée de notre responsable technique Jazo.
Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
Et on est de retour dans le Mac de Limo. Juste après, on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. À 8h45, Paul Véro sera avec nous pour parler de MaPrimeAdapt et de LogiAdapt. Mais tout de suite, Grégoire.
Oui, Bérénice, une ville française qui offre une prime de 10 000 euros à ses nouveaux arrivants.
Et oui, ça fait rêver, hein. Il s'agit de la ville de Moulins, située dans l'Allier. La municipalité a pour objectif de redynamiser son centre-ville en attirant de futurs propriétaires. Alors pour ça, elle a lancé un fonds d'aide à l'accession à la propriété qui permet d'avoir une prime de 100 euros par mètre carré et un minimum de 3 000 euros par logement. Alors évidemment, il y a des conditions pour avoir cette prime. Vous devez être primo-accédant, c'est-à-dire que cela doit être le tout premier logement que vous achetez. Vous devez choisir un logement vacant depuis plus d'un an. Qui doit avoir plus de 15 ans et vous devez vous engager à y résider pendant au moins 6 mois. Sinon, attention, vous devrez rembourser la prime.
Oui, c'est très important. Alors, Bérénice, 100 euros par mètre carré, c'est une aide non négligeable. J'imagine que ça cartonne.
Eh bien oui, depuis sa mise en place, cette aide a permis la rénovation et l'occupation de nombreux logements. 340 000 euros ont déjà été distribués. C'est une belle opération pour cette ville qui compte environ 13% de logements vacants. Et c'est le maire Pierre-André Périssol, que vous connaissez sûrement, l'ancien ministre du logement de 95 à 97, qui a créé ce dispositif attractif.
Allez, direction Moulins.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
C'est le moment d'accueillir Jean-Michel Royot et son invité. Cette semaine, c'est Delphine Merle, la cofondatrice de Whitebird. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle start-up, je suis sûr, qui va vous intéresser, qui s'appelle Whitebird. Et je reçois plus particulièrement sa cofondatrice Delphine Merle. Bonjour Delphine, comment allez-vous?
Bonjour Jean-Michel, je vais très bien, merci.
En forme ce matin?
Ravi d'être là, très
ça
en forme.
Ça piquait pas trop?
Non.
Se réveiller tôt pour venir rejoindre les amis de Radio Imo?
Non, c'est toujours un plaisir.
C'est toujours un plaisir, c'est vrai que Delphine est déjà venue nous voir. Alors Delphine va nous parler de Whitebird qui a été créé il y a combien de temps?
Il y a 4 ans.
Il y a 4 ans,
voilà.
Donc déjà c'est l'âge de raison pour une
start-up. Exactement.
Quelle est votre promesse chez Whitebird?
Alors notre promesse c'est d'accompagner des administrateurs de biens indépendants et de proximité dans leur développement et dans leur gestion au quotidien. Pour les libérer de toute la partie administrative un peu pénible de notre métier et les laisser s'exprimer sur la
passer
création de valeur
avec,
voilà,
leurs clients,
sur les
prospects,
immeubles, les fournisseurs, vraiment ce qui fait la différence au quotidien.
Donc on dégage du temps pour augmenter le service.
Exactement. Et nous, on s'occupe de toute la partie back-office. On s'occupe de, quelque part, variabiliser leurs coûts fixes. Donc, ils sont beaucoup plus libres dans leur croissance. Et au quotidien, ils retrouvent le goût de l'immobilier. Ils retrouvent la passion du métier.
Ça se perd pas, si?
On a un métier qui est très réglementé, et c'est tant mieux, mais qui impose beaucoup de contraintes aux acteurs. Et nous, ce qu'on leur apporte, c'est justement ça, de se libérer de ces contraintes. Et d'être sur le terrain.
Super. En tout cas, c'est très 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 intéressant. Et on va dans notre infinie gentillesse à Radio Imo et notre tech va vous mettre un petit chrono dans les oreilles pour vous donner une minute. Alors, vous savez, c'est la minute où on veut tout savoir. Combien vous êtes, sur quelle zone géographique vous intervenez, comment ça marche. On veut tout savoir de Whitebird. C'est à vous, Delphine.
Alors Whitebird, donc nous sommes une soixantaine de collaborateurs. Nous sommes basés à Saint-Cloud, mais nous opérons partout en France grâce à notre réseau de partenaires qui aujourd'hui compte une vingtaine de clients. Donc on va de Bordeaux à Strasbourg en passant par Chambéry. Et on est vraiment des passionnés de l'immobilier au service d'acteurs locaux et indépendants qui sont de notre point de vue la meilleure réponse aux attentes des clients finaux, les copropriétaires et les bailleurs. Donc on est là pour créer de la valeur ensemble.
C'est un service à la carte ou c'est la même offre parce que tout le monde ne doit pas être au même niveau dans le...
Alors c'est pas un service à la carte, c'est vraiment on offre ce back-office et donc ce qui est à la carte c'est la verticale, c'est-à-dire est-ce que c'est que du syndic ou est-ce que c'est syndic et gestion locative ou que gestion locative. Nous on offre les deux. Et on a des clients qui font les deux, d'autres qui ne font que du syndic ou que de la gestion locative.
Vous subissez le contexte immobilier du moment?
Alors, pour nous, c'est plutôt, enfin, on est plutôt contre-cyclique de ce point de vue-là, puisque déjà, la gestion a cet avantage, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour, voilà, pour gérer son patrimoine. Et justement, on a pas mal d'acteurs de la transaction ou de la promotion qui aujourd'hui se demandent comment faire face à la crise et veulent développer des nouvelles sources de revenus. Et donc, la gestion, c'est quand même très logique quand on fait de la transaction. Ou quand on fait de la promotion. Et donc, on a dans notre réseau des partenaires qui viennent de la transaction et de la promotion et qui sont très contents aujourd'hui de pouvoir construire ce portefeuille de mandat.
Alors, qui vous fait confiance, du coup? Vous pouvez nous citer quelques noms ou c'est des structures de taille de petite taille en province, ce que je comprends.
Tout à fait. Notre premier partenaire que je salue, qui s'appelle Benoît Delastre, son cabinet s'appelle le Syndic Heureux. Il est basé à Bordeaux.
Un joli nom, ça.
Exactement. Et donc, voilà, Syndic Heureux, membre du réseau Whitebird et qui nous a rejoint il y a quasiment un an. Et j'espère s'il nous entend. En tout cas, nous, on est très heureux de l'avoir dans notre réseau.
C'est le premier des 20 que vous citiez tout à l'heure.
Exactement. Voilà. Exactement. Donc, effectivement, on a une vraie collaboration.
Comment vous les trouvez, les syndics, là? Ils sont, vous les démarchez en direct?
On les démarche, on passe du temps aussi dans les salons, on est présent sur LinkedIn, enfin voilà, on a pas mal de canaux de prospection différents et on va aussi appeler voilà, tous ces entrepreneurs dont on pense que le réseau Whitebird pourrait vraiment changer leur vie au quotidien et valoriser leur entreprise.
On s'est bien vendu en tout cas. Et comment on fait pour vous contacter?
Ah bah alors là, bonjour à whitebird.mo, ça marche très bien. Delphine à whitebird.mo, ça marche très bien. Okay, on vous attend, on est ravis.
Sur LinkedIn du coup.
Sur LinkedIn, Delphine Merle.
Delphine Merle.
Voilà.
Whitebird, c'est très simple. En deux mots, l'oiseau blanc.
L'oiseau blanc, on voulait se démarquer un petit peu des autres entreprises du secteur et donner l'idée d'un nouvel élan. En fait, nous, on est passionnés de ce métier. On trouve que c'est un métier formidable dans lequel il y a des acteurs vraiment très bons, très engagés. Et ce métier a besoin de retrouver toute sa noblesse. Et on pense que Whitebird, ça peut être un petit coup de pouce pour aider des gens qui sont déjà très forts.
Avec un gros volet de digitalisation, du coup.
Exactement, mais beaucoup au service des professionnels. C'est-à-dire qu'à la fin, le client final, il bénéficie effectivement de cette digitalisation. Mais l'objectif, c'est vraiment que ça aide les gestionnaires au quotidien pour pouvoir passer du temps sur ce qui compte à la fin, c'est-à-dire faire de l'immobilier.
Alors, vous l'avez compris, ce matin, on reçoit une passionnée, Delphine Merle, qui vient de nous présenter Whitebird. Écoutez, au nom de Radio Immo, on vous remercie de votre présence. On vous souhaite plein de succès. Donc, vous allez venir nous retrouver pour nous raconter le 100e, puisque vous êtes au 20e. Donc, dans très peu de temps, on vous le souhaite.
J'espère.
Merci beaucoup. Plein de succès. À très bientôt, Delphine.
À très bientôt, Jean-Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
PPPT. MaPrimeRénov, décret tertiaire, DTG et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. PPPT, audit énergétique, suivi des consommations, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Le Mac de l'Immo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Merci à ceux qui nous écoutent depuis le début, vendredi 19 janvier pour le Mac de l'Immo. Bérénice, vous avez assisté à la cérémonie des vœux du groupe Action Logement cette semaine.
Et oui, c'était mardi à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, notre Trocadéro. Moi, c'était la première fois que j'y allais, c'est magnifique d'ailleurs, je vous conseille. Et puis, il n'y avait que du beau monde. Il y avait notamment le ministre Christophe Béchu de la Transition transition écologique et de la cohésion des territoires qui a fait un discours, qui n'a pas dit grand-chose au final, mais voilà, il a fait un discours. C'était très sympa, il y a eu un petit point presse, donc voilà, on a pu discuter.
Et malgré une année difficile, le groupe Action Logement a tenu ses engagements en 2023, c'est à noter, Bérénice. Et vous avez fait le point avec la directrice générale, Nadia Bouillet, on vous écoute.
Bonjour Nadia Bouillet, vous êtes la directrice générale d'Action Logement. Un petit mot peut-être sur cette cérémonie, les vœux d'Action Logement, ce début 2024.
Oui, bonjour. Ce matin s'est tenue la cérémonie de vœux. Ça a été l'occasion pour le groupe Action Logement de présenter ses résultats de l'année 2023. 2023 a été une année vraiment très difficile pour le secteur du logement. Pour autant, nous avons tenu nos engagements grâce à l'hypermobilisation des partenaires sociaux et de nos équipes. Et donc, on a pu présenter ces résultats ce matin. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est 44 000 agréments de nouveaux logements, 37 500 mises en chantier et 40 000 réhabilitations de notre patrimoine pour améliorer le confort et le décarboner. Et puis, côté services, ce sont 750 000 aides et services qui ont été délivrés par Action Logement Service aux salariés pour les accompagner dans leur parcours logement.
Alors on peut dire que c'est des bons chiffres quand on regarde le secteur au global, quand on regarde les plus gros acteurs notamment. Comment vous abordez l'année 2024 ?
Alors l'année 2024, nous on va, je dirais, tenir la rampe, tenir le cap, voilà exactement. En 2024, on va tenir le cap. Nos ambitions, c'est celle de la convention quinquennale qu'on a signée au mois de juin dernier. Donc cette année 2024, Action Logement Service va mobiliser 3 milliards de financement, un peu plus de 700 millions pour les personnes physiques, pour les accompagner avec des prêts, avec des aides, et un financement pour aussi l'ensemble des bailleurs qui produisent. En contrepartie de cela, Action Logement Service aura des réservations pour les salariés des entreprises. Et du côté immobilier, notre ambition, c'est les 3x40, 40 000 agréments, 40 000 mises en chantier et 40 000 réhabilitations, puisqu'on a une trajectoire à tenir, qui est celle de la décarbonation de notre parc, avec moins 55% à l'horizon 2030, donc il faut s'y atteler tout de suite.
Donc la décarbonation, c'est le grand chantier des années à venir, mais ça arrive en même temps qu'une période où les Français ont de plus en plus besoin de vous. Les Français ont de plus en plus de mal à se loger. On parlait de logements abordables tout à l'heure, c'est devenu une nécessité pour un grand nombre de Français qui travaillent, certains travaillent et n'ont pas de logement. Comment vous voyez la chose, comment vous voyez évoluer la société justement ?
Alors, vous avez raison de le souligner, puisqu'effectivement, on doit faire tout en même temps, c'est-à-dire qu'on doit produire de nouveaux logements abordables et en même temps réhabiliter le parc. Donc c'est vraiment, il n'y a pas une ambition au-dessus d'une autre, et donc on doit concilier ces deux points.
Et c'est possible.
Et c'est possible, oui, c'est possible, mais ça va être très difficile. Et c'est pour ça que ce matin, le président du groupe a aussi tiré la sonnette d'alarme, et puis en présence du ministre, a fait part de nos propositions, puisque il faut, pour avoir une politique du logement vraiment ambitieuse, lever certains verrous, simplifier et puis apporter aussi de la visibilité au secteur, que ce soit les investisseurs, que ce soit l'ensemble des acteurs économiques que nous sommes, qui devons faire face à une augmentation brutale des taux d'intérêt. Donc on attend aussi des réponses sur ce point pour pouvoir justement tenir ce cap qui est vraiment indispensable à la cohésion sociale.
Une dernière question, vous vous sentez soutenu, écouté par le gouvernement ? Là, Christophe Béchu était présent ce matin. C'est vrai que vous vous entendez bien avec le ministère de la Transition écologique, mais est-ce que vous vous sentez pour autant entendu ?
Vous l'avez vu tout à l'heure, je pense qu'il s'est exprimé assez clairement justement sur, je dirais, sa perception du secteur et les nécessaires évolutions à avoir cette année. Donc on a confiance et puis on veut avoir confiance pour jouer notre rôle en 2024 pour agir pour le logement.
Eh bien, merci infiniment.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo et notre invité Paul Véraud est arrivé. On sera avec lui dans quelques instants. Je rappelle qu'on va débuter avec sa musique. Il nous expliquera pourquoi ce choix musical. Et puis, on va parler de LogiAdapt qu'il a cofondé et de MaPrimeAdapt. Mais tout de suite, on parle des clés de la ville, émission phare de Radio Immo, coproduit avec Le Figaro.
Tout à fait, Bérénice.
Grégoire, c'est vous qui produisez cette émission. Alors, les clés de la ville, c'est quoi le concept ? Chaque mois, on part dans une ville, c'est ça ?
Effectivement, c'est une émission mensuelle qui a vocation à montrer que la ville, elle bouge et se transforme. Et donc tous les mois, on accueille le maire de la ville qu'on visite et on l'interroge sur sa politique urbaine, du logement, etc., etc., sur sa ville et sa dynamique.
Donc avec Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.
Exactement.
Du Figaro. Alors, cette semaine, vous êtes parti à Limoges.
Oui, mercredi 17 janvier, nous étions à Limoges. On est parti très tôt parce que je ne sais pas si vous le saviez, la ligne pour aller à Limoges, c'est la pire ligne de train de France. Donc on est parti très très tôt. En tout cas, on a été très bien accueillis dans cette ville par son maire Émile Roger Lomberti, qu'on n'attendait pas du tout comme maire de Limoges en 2014, qui a été élu à la surprise générale et qui nous a formidablement reçu.
Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Pourquoi vous dites qu'il était
parce
pas...
Parce qu'il était professionnel de santé, spécialisé en psychiatrie, si ma mémoire est bonne, et il a été élu alors que personne ne l'attendait, sauf lui. Il y a cru, et du coup, ça a marché. Il a été ensuite réélu en 2020, et il fait une politique de proximité avec ses habitants. Il a rénové notamment le centre-ville historique de sa ville et ça marche. C'est une superbe ville, Limoges.
Donc c'est un très bon maire, on peut le dire.
Exactement.
Eh bien, on a hâte d'écouter cette émission. Elle sera diffusée quand, Grégoire ?
Elle sera diffusée jeudi 25 janvier à 18h02 exactement sur Radio Imo.
Eh bien, merci beaucoup. On accueille juste après le Flash Info et sa musique, notre invité Paul Véro, le cofondateur de Logis Adapt. À tout de suite sur Radio Imo. Yes. Come fire. Run.
De Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.